Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
À 19h15, vous avez rendez-vous avec l'invité politique d'Europe Soir. Aujourd'hui, Michel Barnier. Ce sera après le journal de 19h, présenté par Hélène Zelani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Et il est 19h, ça tombe bien. Un chiffre spectaculaire pour commencer ce journal. 7% de croissance en 2021, l'un des meilleurs de la zone euro. Explication et illustration avec une petite entreprise qui cartonne.
2 mois de rap pour les lycéens de terminale. Les 2 épreuves de spécialité se tiendront en mai. Psychodrame dans la famille Le Pen. Marion Maréchal ne roulera pas pour sa tante Marine. Elle lorgne du côté d'Éric Zemmour. Et puis l'euro de handball. Les Bleus affrontent la Suède pour une place en finale.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, attention aux chaussées glissantes demain matin. Localement entre Allier, Loire, Hauteur des Vosges et du Morvan. Les pluies qui resteront verglaçantes en journée entre Vesoul et Nevers sous un ciel gris à couper au couteau sur les 2/3 nord toujours. Beau temps entre Pays Basque et Alpes du Sud jusqu'en Méditerranée.
Météo complète en fin de journal. Et c'est donc du jamais vu depuis plus d'un demi-siècle, une croissance à 7% en 2021.
Oui, l'estimation de l'INSEE dépasse les prévisions. Un rebond spectaculaire qui efface la crise économique, disait ce matin le ministre Bruno Le Maire. Il y a en effet de quoi se réjouir, Carole Ferry, puisque l'activité a dépassé son niveau d'avant-crise.
Et oui, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on voit enfin le bout du tunnel. Ça veut dire que la politique du quoi qu'il en coûte a fonctionné. On a évité une faillite massive des entreprises. Elles ont pu redémarrer très vite dès que la situation s'est améliorée. Maintenant, attention, plus 7%, c'est un chiffre qu'il faut relativiser. En fait, nous avions eu une chute record du PIB en 2020, moins 8%. Donc là, finalement, nous avons surtout un rattrapage mécanique, mais c'est vrai qu'on redémarre plus en version moteur à propulsion qu'en version diesel. Une dynamique soutenue par la hausse de la consommation. Pendant le confinement, les Français ont beaucoup épargné. Dès qu'ils ont pu à nouveau, eh bien, ils ont dépensé. L'investissement redémarre également. Les particuliers investissent dans l'immobilier, les entreprises et les collectivités dans la performance énergétique notamment. Alors, il y a tout de même des secteurs qui continuent à beaucoup souffrir, comme le tourisme, les transports, l'hôtellerie-restauration. Mais le reste de l'économie donc va plutôt bien. L'INSEE prévoit d'ailleurs une croissance à nouveau en hausse de 4% cette année.
Carole Ferry, vous venez de joindre le patron d'une PME Enodis dans l'Yonne qui fabrique des équipements de cuisine professionnelle. Avec la fermeture des restaurants, son activité s'est effondrée en 2020, mais il a rebondi.
2020 a été une année compliquée avec le confinement, avec la fermeture de nos clients, des restaurateurs. En 2021, on a une vraie reprise économique. Je dirais qu'il est le reflet, je pense, du retour de toute la clientèle dans les restaurants, etc., et qui a recréé une dynamique. Et en fait, on a arrêté le chômage partiel fin mars. Et là, la dynamique s'est mise en route et on a même dû faire des heures supplémentaires sur la fin de l'année 2021. On est à peu près dans les chiffres puisqu'on retrouve à peu près 10% de reprise d'activité sur 2021 par rapport à 2020.
Philippe Gallo, patron de l'entreprise Enodis, 20 salariés.
Un peu plus de temps pour réviser. Les épreuves de spécialité du bac sont reportées de 2 mois.
Oui, en raison de la crise sanitaire, ces 2 épreuves, prévues du 14 au 16 mars, se tiendront donc du 11 au 13 mai. Les lycéens gagnent 2 précieuses semaines, Céline Géraud.
Effectivement, les élèves de terminale auront plus de temps pour préparer ces épreuves qui comptent à 32% dans la note finale. Petit bonus, les journées des 9 et 10 mai seront entièrement réservées aux révisions. Pour le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, cette décision s'inscrit dans une stratégie d'apaisement.
Il y avait des points de vue assez différents qui s'exprimaient de la part des lycéens et de la part des enseignants ou des chefs d'établissement. Le mois de mai nous est apparu comme étant la formule qui permettait de tout simplement acquérir plus de connaissances dans des circonstances sereines, si on veut avoir du sérieux dans la préparation de cet examen.
Conséquence de ce report, les modalités de Parcoursup sont aménagées. Ce dispositif qui gère l'affectation post-bac est clôturé le 7 avril. Faute d'examen en mars, eh bien ce sont les moyennes des notes obtenues en première et les 2 trimestres de terminale qui seront prises en compte. Enfin, dernier aménagement pour les élèves de première qui passent le bac français, le nombre de textes à présenter à l'oral fin mai sera réduit de 20 à 16.
Céline Géraud, alors réaction des premiers concernés, les lycéens de terminale, eh bien les avis sont mitigés. Certains s'inquiètent notamment d'une fin d'année surchargée avec trop d'épreuves en peu de temps.
Moi je trouve ça un peu honteux parce que en soi nous on a les épreuves pour mathématiques et physique chimie pour ceux qui ont un bac scientifique, donc on n'a pas assez de temps avec clairement le grand oral à préparer, philo à préparer, Parcoursup, nos voeux à préparer.
Comme c'est reporté à mai, j'aurai les vacances d'avril pour bien réviser, etc. Donc moi honnêtement ça m'arrange.
Pour nous c'est du stress en moins d'avoir les épreuves en mars. Il y a Parcoursup, Nous, on espérait avoir les notes du bac pour Parcoursup. Je pense que ça ne sera pas pris en compte. Il y aura des problèmes pour la suite, après la terminale.
C'est la procrastination, parce qu'en fait, juste on décale à plus tard au lieu de le faire maintenant. Mais personnellement, je préfère, comme ça, j'ai plus de temps pour m'y préparer. Surtout qu'on était dans le suspense de est-ce que c'est décalé ou pas, donc on savait pas si on devait vraiment s'y mettre dès maintenant totalement. Mais là, ça a été décalé, on a informé, c'est le principal.
Des lycéens parisiens interrogés par Wilfried De Villers.
La politique à présent, et voici le retour de Marion Maréchal.
Oui, l'ex-député FN du Vaucluse a jeté un très gros pavé dans la mare en annonçant non seulement qu'elle voulait revenir en politique, mais surtout qu'elle ne soutiendrait pas sa tante Marine Le Pen et qu'elle penchait pour Éric Zemmour, une déclaration qui a mis le feu aux poudres, Victor Chabert.
Oui, et dès ce matin sur CNews, Marine Le Pen a réagi à ces déclarations. La candidate s'est montrée très affectée.
Je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
Ce ralliement possible de Marion Maréchal peut avoir des conséquences politiques pour Marine Le Pen, bien qu'en retrait du RN, l'ancienne députée du Vaucluse incarnait une ligne conservatrice, identitaire, mise à l'écart ces derniers temps par la candidate RN au sein de son mouvement. En déplacement en Sologne, Éric Zemmour s'est exprimé en restant très évasif sur l'arrivée de Marion Maréchal au sein de son mouvement.
J'ai pour principe de ne pas commenter les rumeurs de campagne. Mais si... vous voulez savoir ce que je pense de cette semaine, je vous dirais que c'est une belle semaine. Maintenant, pour vous répondre sur Marion Maréchal, je vous répondrai ce que vous aurait dit ma grand-mère. Qui vivra, verra.
Dans le camp Zemmour, on soupçonne Marine Le Pen d'avoir intensifié les rumeurs autour d'un possible ralliement de sa nièce à Reconquête pour anticiper le choc que cela produirait auprès de son électorat. Mais on reste dubitatif face à cette stratégie. Au lieu d'un ralliement net, c'est une séquence qui s'ouvre un nouveau feuilleton autour de la famille Le Pen. Jean-Marie Le Pen a annoncé dans un tweet qu'il voulait s'entretenir avec Marine Le Pen et Marion Maréchal.
Victor Chabert et Marine Le Pen rejoignent ses alliés européens, notamment les premiers ministres hongrois et polonais ce soir à Madrid. Objectif affiché de cette rencontre, réformer l'Europe et à terme former un groupe commun au Parlement européen.
Désescalade, c'est le mot à retenir de l'entretien Macron-Poutine cet après-midi.
Oui, les deux présidents, français et russe, se sont entretenus pendant plus d'une heure par téléphone à propos de la crise ukrainienne. Qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement, William Molinier ?
Eh bien, sans surprise, Vladimir Poutine a accusé une nouvelle fois l'OTAN de s'être rapproché de la frontière russe, ce à quoi Emmanuel Macron a répondu qu'il était indispensable que la Russie respecte le principe de souveraineté des États, deux lectures donc très différentes de la situation. Et il faut bien l'avouer, on fait ce soir à l'Élysée le constat de ce désaccord. Alors Moscou n'est pas fermé au dialogue, dialogue d'ailleurs qualifié de sérieux et respectueux par un conseiller du président français, mais le Kremlin indique dans un communiqué, je cite, qu'il déterminera sa réaction une fois les réponses de ses principaux rivaux étudiées, autant dire que si la porte des négociations est ouverte, la sortie de crise est loin d'être trouvée.
Alors Emmanuel Macron s'entretient en ce moment même avec le président ukrainien Zelensky. Son objectif, William, c'est le respect des accords de Minsk.
Oui, ces accords entre la Russie, l'Ukraine et les séparatistes du Donbass ont été signés en 2014. Ils étaient censés mettre fin à la guerre dans cette région. Force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, la diplomatie française veut que Kiev avance sur ce protocole de Minsk en accordant de manière temporaire l'autonomie locale du Donbass telle que cela était prévu et en échange que Moscou fasse redescendre la pression militaire sur la ligne de contact. Vladimir Poutine est d'accord sur le principe. Ce sera au moins ça de gagner, pense-t-on, à Paris. Et donc, le début de ce fameux chemin de désescalade voulu par Emmanuel Macron.
William Molinier.
Europe Soir Weekend.
19h09, l'économie en France. Christelle Heydemann, retenez bien son nom, c'est en effet la première femme à prendre la tête d'Orange.
Oui, elle va succéder à Stéphane Richard, condamné dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais, qui reste encore en poste quelques semaines. Christelle Heydemann, c'est d'abord une tête bien faite, Aurélien Fleureau.
Oui, cette polytechnicienne de 47 ans est actuellement la dirigeante de Schneider Electric pour l'Europe. Elle connaît le secteur des télécoms pour avoir travaillé chez Alcatel pendant 15 ans, où elle a notamment occupé le poste de directrice des ressources humaines. Une expérience loin d'être anodine dans un groupe où le social reste évidemment un sujet sensible. Elle coche beaucoup de cases, disait-on en interne quelques jours avant sa nomination officielle. Elle avait été publiquement soutenue par Bruno Le Maire, l'État actionnaire principal d'Orange à hauteur de 23%. Parmi les premiers dossiers de Christelle Edman la transformation de l'entreprise, alors qu'un accord intergénérationnel a été trouvé fin 2021 pour encadrer la réduction des effectifs. Il y aura des départs anticipés, mais également 8000 recrutements d'ici 2024. Autre sujet sensible, le remplacement progressif du réseau cuivre par la fibre, la situation d'Orange en Espagne, et puis également le développement de la cybersécurité et des activités financières, à commencer par Orange Bank.
Aurélien Fleurot, elle entre en fonction à la tête d'Orange le 4 avril prochain. Les maltraitances dans les EHPAD du groupe Orpea, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a mené une inspection dans l'établissement de Neuilly-sur-Seine en banlieue parisienne. On connaîtra les résultats dans quelques jours. Les pratiques dans cet EHPAD sont dénoncées dans le livre Les Fossoyeurs. Dans le même temps, 5 établissements d'Orpea en Belgique ont également été inspectés.
On passe au sport, chère Hélène Zeleny. Les Bleus du handball jouent leur billet pour la finale de l'Euro ce soir.
Oui, la France affronte la Suède. Des retrouvailles entre deux équipes qui s'étaient affrontées lors du Mondial il y a un an, Cyril de la Morinerie.
Oui, à l'époque, les Bleus s'étaient inclinés face aux Scandinaves en demi-finale du Mondial. Mais depuis, la donne a changé. L'équipe de France a retrouvé les sommets avec un titre olympique à Tokyo. Et cette fois, Suédois et Français font figure de miraculés lors de cet Euro. Les Bleus se sont qualifiés in extremis face au Danemark. Ils n'ont pris l'avantage que 2 minutes avant le terme de la rencontre. Quant aux Suédois, ils étaient menés de 4-6 minutes de la fin du match avant de s'imposer face à la Norvège. Une demi-finale qui s'annonce donc très serrée, prévient le sélectionneur Guillaume Gilles.
Mais c'est une très belle demi-finale avec une équipe de Suède qui joue un très bon handball, qui est très solide, qui a un maître à jouer, qui donne le tempo. Et on sait que dans un dernier carré, dans un week-end final, tout est ouvert. On a envie de continuer à grandir, on a envie de franchir cette nouvelle étape et de se qualifier pour la finale.
Guillaume Gilles qui retrouvera sa place sur le banc de touche, le sélectionneur positif au Covid le 21 janvier dernier est désormais négatif. Les Bleus de Nicolas Karabatic vont tenter de se qualifier pour la finale de l'Euro, ce qui serait une première dans cette compétition depuis 2014.
Cyril de la Morinerie, France-Danemark, coup d'envoi à 20h30. Et puis il y a aussi du foot ce soir, Nantes-Brest, 8e de finale de la Coupe de France.
Merci Hélène Zeleny, on passe à la météo. Valérie Darmon, demain beaucoup de grisailles sauf au sud où il y aura du soleil.
Effectivement, le couvercle nuageux se maintient encore sur les deux tiers nord avec pour la partie est un ciel qui donne de faibles pluies et surtout des pluies verglaçantes sur l'Allier, la Loire, le Morvan, les Vosges. Ces pluies verglaçantes qui se maintiennent jusque dans l'après-midi de l'Alsace à l'Auvergne, tandis que la bruine touche localement toute la moitié nord. Et puis on a un vent d'ouest qui se lève en Manche et qui donne des rafales entre 60-70 km/h de la Haute-Normandie et Haute-France. Le soleil, il brille sur un tout petit tiers sud, passé les grisailles en Nouvelle-Aquitaine. Les minimales vont afficher moins 3 à 1 de la façade est au sud-ouest et dans le centre, 2 à 6 ailleurs, jusqu'à 9 sur la Bretagne et en bord de Méditerranée. Les maximales entre 4 et 12 degrés.
Merci Valérie Darmon. Restez avec nous dans un instant, c'est l'invité politique d'Europe Soir. Michel Barnier, il y a encore peu de temps, il était candidat à la présidentielle. Le voilà soutien de Valérie Pécresse. Quel rôle joue-t-il précisément dans cette campagne? Comment utilise-t-il son passé politique de ministre, de commissaire européen? Et que pense-t-il de ce qui se passe justement entre la Russie et l'Ukraine? A tout de suite sur Europe.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.